France Inter.
Good evening and welcome.
Я размахивал копьем.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Et Amélie Perrier, bien sûr. Amélie, des biscuits qui coupent l'appétit, c'est en Allemagne.
Des biscuits de la marque Balzen. Vous les connaissez tous, c'est par exemple ça.
Salut ma belle. Aujourd'hui, c'est pas des fleurs, c'est des curlis. C'est si bon.
Et si croustillant.
Curlis de Balzen.
J'adore ce petit goût de cacahuète.
Ou encore ça pour les plus jeunes.
C'est Monster Munch.
Monster Munch, des petits monstres salés au bon goût de pommes de terre.
Monster Munch de Balzen. Mieux vaut tous les manger.
Ou en version sucrée, parce que je crois que vous préférez, Fabien.
Oui, je vous en prie.
Fermez les yeux. Imaginez une vraie tablette de chocolat entre deux délicieux biscuits. Pick-up de Balzen. Une irrésistible envie de plus de chocolat ? Gourmand.
Bon voilà, arrêtez de saliver maintenant,
non,
Fabienne,
non,
ça a trop duré.
C'est beaucoup plus difficile que ça en biscuit, je peux vous dire.
Parce que si je vous parle de ce fabricant de biscuits allemand, c'est à cause des déclarations de sa jeune héritière de très mauvais goût. Verena Balzen a déclaré au Bild à propos des travailleurs forcés dans l'entreprise de gâteaux à l'époque nazie. Tout cela s'est passé avant mon époque et nous avons payé les travailleurs forcés comme les Allemands. Nous les avons bien traités. Balzen n'a rien à se reprocher. Fermez les guillemets. Alors Balzen a employé 200 travailleurs forcés pendant la Seconde Guerre mondiale pour produire les rations alimentaires pour l'armée allemande, sur le front surtout. Et depuis lundi, ça ne passe pas outre-Rhin. En fait, le Troisième Reich reste un sujet sensible et même le redevient avec la montée en puissance de l'extrême droite qui, elle, ne veut plus participer au travail de repentance, jusqu'à présent consensuel, partagé par toute la classe politique. Une pétition a été lancée pour boycotter les produits de la marque. Ce soir, quand même, Verena Balzen est revenue sur ses propos. Elle avoue des déclarations irréfléchies, une erreur, et affirme n'avoir pas voulu, je la cite, banaliser le national-socialisme et ses conséquences.
Voilà, rendez-nous les figolus. Après tous ces biscuits, pourquoi pas un peu de soda pour s'hydrater ?
Certainement pas, Fabienne, trop sucré ou édulcoré avec des substances dont on ne sait pas vraiment si elles nous font seulement du bien. Eh bien, la taxe soda a été créée pour dissuader les consommateurs comme vous d'en consommer trop, d'en boire trop en France notamment. Parce que voilà ce que l'on disait dans une pub des années 60 pour Coca.
You know, this was me 5 years ago. And it's still me.
C'est un peu comme vous, Fabienne, la comédienne Connie Clausen vantait l'énergie que donnait son soda sans prendre un gramme, pas plus de calories dans sa bouteille, dit-elle, que dans la moitié d'une grappe de raisin. Alors depuis, on a un peu refait les comptes. Hein. Une canette de coca, c'est 7 morceaux de sucre, du diabète, de l'obésité, se propageant comme une épidémie, surtout chez les jeunes. Alors pour revenir à l'eau, les gouvernements testent la taxe soda et ça fonctionne. Exemple, à Philadelphie, aux États-Unis, on vient d'apprendre que les ventes de ces boissons ont chuté de 38% depuis l'entrée en vigueur d'une taxe spéciale en janvier 2017. Les prix des bouteilles et des canettes ont augmenté de 25 à 53 cents de dollars en moyenne. En 2 ans et demi, les habitants de Philly ont drastiquement réduit leur consommation. Le souci, c'est que pour l'instant, les plus accros au soda sont allés faire leurs courses dans les magasins frontaliers où les ventes, là, augmentent. Mais même en prenant en compte ces achats, on arrive à une baisse de la consommation de 38%. Il faudra maintenant mesurer le recul de l'obésité, des caries et des cas de diabète. En tout, 7 villes américaines taxent les sodas sucrés et édulcorés. Le Mexique également s'y est mis et la France depuis 2013. Mais chez nous, les résultats sont mitigés. La taxe, peut-être, n'est pas assez dissuasive.
Allez, pour terminer avec ce tour du monde comestible, revenons à un aliment de base, excellent.
Oui, le riz, et pas n'importe lequel, celui en l'honneur du nouvel empereur.
Je prie pour votre santé et votre bonheur. Je souhaite sincèrement que notre pays, main dans la main avec les pays étrangers, recherche la paix mondiale et davantage de développement.
Et la santé du nouvel empereur Naruhito, eh bien ça passe par le riz. Autre cérémonie cette semaine, celle pour déterminer où sera cultivé le riz pour le palais impérial. Et pour ce faire, des experts ont examiné, devinez quoi, des carapaces de tortue. On chauffe les carapaces, des craquelures apparaissent et cela indique les sites de culture.
Wow.
Cette fois, oui, ce sera dans l'ancienne capitale Kyoto et puis également au nord de Tokyo, dans la préfecture de Toshigi. Un rituel très rare avec des carapaces de tortue verte, des espèces marines menacées, mais le palais assure qu'elles sont prélevées dans le cadre d'un programme de conservation, que les tortues n'ont pas été tuées dans ce but. Elles viennent des îles Ogasawara, dans le Pacifique, où là, elles sont encore consommées par les habitants.
Eh ben, dites-moi, la carte du riz sur le dos de la tortue.
Exactement.
Amélie Perrier, sous les radars. Merci Amélie.
À demain.